Bon, que dire de plus après tout ce que nous a dit Michel ce matin et après cette louange, c'est difficile de passer derrière. C'est vrai, on a échangé un peu au téléphone. Je savais que Michel allait parler de la situation actuelle et je trouve normal. Comment ne pas partager dans ce culte nos pensées pour ce pays, pour nos frères, pour nos amis, mais aussi pour les personnes que nous connaissons pas et qui sont dans la souffrance. Surtout parce que c'est une guerre qui est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et je pense que nous avons besoin, en tant qu'Église, de le faire. Toute cette situation est une source d'anxiété pour nous tous, comme si les crises qu'on a vécues, ce n'était pas suffisant avec ce qu'on a vécu ces dernières années. Et autour de nous, on voit des visages inquiets. Nous revoilà à être collés au poste radio ou télé pour suivre heure après heure l'évolution des événements. Moi, je n'ai pas la télé, j'écoute peu la radio, j'essaie de m'informer un peu juste. Mais par contre, j'ai pris l'habitude de suivre les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est très, très direct. Et il y a des réactions de tout ordre en ce moment, surtout ben je pense que beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'étonnement. Et j'ai trouvé que nous, chrétiens, nous avons besoin de trouver du sens à ce qui est en train de se passer dans la parole de Dieu. Et je pense qu'en ça, l'introduction de Michel a été très, très utile, les textes qu'il a partagés avec nous. Et j'ai même entendu des gens parler de la fin des temps. Et donc, je me suis posé la question de est-ce qu'on est vraiment en train de vivre la fin des temps? Je sais, je ne suis pas compétent en eschatologie biblique et je vais m'arrêter à la frontière de ce que mes compétences peuvent me permettre. Dans le calendrier liturgique, nous sommes entrés dans le temps de carême. Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte, parce que c'est un temps qu'on ne fête pas beaucoup chez les chrétiens protestants, alors que chez les catholiques, on a un culte exprès pour marquer le début de la carême. Mais c'est une période qui est censée nous préparer pour le temps de Pâques, en nous remémorant aussi des derniers jours du ministère de Jésus avant sa passion. Et j'ai voulu donc, après la belle image que Michel nous a posée, j'ai voulu revenir sur l'évangile de Matthieu au chapitre 24, qui nous rapporte cet échange entre Jésus et ses disciples sur la fin des temps. Je vais le lire. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent à l'écart, parce qu'il avait parlé de la destruction future de Jérusalem, « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera que tout cela va terminer? » Jésus leur répondit, « Faites attention que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils égareront quantité de personnes. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tous ces événements seront comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Dans mon métier, je m'intéresse un peu au métier à la question de la prospective. C'est un exercice difficile. Et en réalité, la plupart du temps, lorsqu'il y a quelqu'un qui dit que quelque chose va arriver, c'est justement cette chose-là qui n'arrive pas. Donc si on veut vraiment miser sur la prédiction du futur, il vaut mieux miser sur les scénarios les plus improbables, parce que c'est justement cela qui qui arrive. Les disciples de Jésus, dans ce passage, lui demandent un signe, comme une sorte d'alarme dans leur réveil, pour qu'ils disent « Attention, c'est aujourd'hui la fin des temps, tu te souviens ?» Mais selon Jésus, il n'y a pas un signe de la fin des temps. La fin des temps, il nous dit, c'est comme un accouchement. Moi, je n'ai jamais vécu d'accouchement. Ni en chair propre, ni... j'ai jamais assisté à un accouchement. J'ai vu ça dans des films, ouais. Mais je n'ai jamais assisté à ça. Ça doit être quelque chose de très éprouvant, pour la femme aussi. Non, c'est vrai. Mon père, quand je suis né, il est tombé dans les pommes et tout. Mes filles sont nées par césarienne, donc une césarienne programmée. Alors, je n'ai pas vécu ce temps des contractions et tout ça. Apparemment, les douleurs de l'accouchement sont des épisodes très douloureux. Non, au début, ce n'est pas très fort et petit à petit, je ne dis pas de bêtises, non ? Ils sont plus intenses et puis elles sont plus réguliers, ça se rapproche dans le temps. Donc il y a un gain en intensité et en fréquence. Donc il n'y a pas vraiment un signe, ce n'est pas une seule contraction qui va nous dire « voilà, c'est le bébé qui arrive ». Il faut qu'il y ait des signes répétés qui gagnent en intensité et se rapprochent dans le temps pour vraiment voir la fin. De la même façon, une pandémie, une guerre ne suffisent pas pour affirmer qu'il s'agit de la fin du temps. Au moins, c'est ce que je pense. Je pense que si on veut devenir spécialiste en prospective ou en eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps, il faut éviter un piège, il faut éviter de faire de chaque événement de l'actualité un signe de la fin des temps. Certains voient, par exemple, dans l'évolution du conflit israélo-palestinien un signe de la fin des temps. D'autres disent que l'évolution fulgurante des technologies et de la connaissance est un signe de la fin des temps. Pour d'autres, c'est l'évolution du climat. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque période, à chaque époque, il y a eu des gens qui ont interprété l'actualité comme un indice de la fin des temps. Et souvent, ces gens-là proposent même des solutions. Même aujourd'hui, il y a des personnages très connus qui préparent l'évacuation de la planète Terre avec des fusées pour Mars avant que la Terre devienne invivable. Et nous allons continuer à entendre ces choses-là. Jésus nous a dit, oui, ça va arriver, toutes ces catastrophes, mais il faut que cela arrive. De la même façon que les contractions préparent la naissance du bébé, les guerres et les catastrophes prépareront la fin des temps. Mais on n'en est pas là. Je ne veux pas paraître insensible à ce qui se passe en Ukraine. C'est un désastre, c'est intolérable. Et je suis soulagé de voir que la communauté internationale, mais nous aussi dans cette église, nous nous mobilisons pour aider chacun à sa façon et selon ses moyens. Ce que je veux dire, c'est que même si la situation est dramatique, ce n'est pas la fin. Le deuxième piège, lorsqu'on veut se lancer dans l'étude de la fin des temps, c'est le fait de se focaliser sur les choses négatives. C'est vrai que le portrait que Jésus dresse dans l'évangile de Matthieu ou dans Marc n'est pas très réconfortant. Il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. L'Apocalypse parle de l'Antéchrist, de la bête, mais l'Apocalypse ne parle pas que de ça. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais m'arrêter juste avant la limite de mes compétences. Le début du livre d'Apocalypse, juste les premiers trois versets, disent « Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donné pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour lui faire connaître cela. Jean est témoin que tout ce qu'il a vu est parole de Dieu et vérité révélée par Jésus-Christ. Heureux, c'est là où je veux en arriver, Heureux celui qui lit ce livre. Heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et gardent attentivement ce qui est écrit ici. Car le moment où tout cela doit arriver est proche. L'intérêt de porter le regard vers la fin de temps est d'être heureux. La fin de temps est terrible, mais il ne faut pas que les signes avant-coureurs catastrophiques cachent le bonheur qui nous attend au bout. Voir la Nouvelle Jérusalem, tu nous as fait chanter ce cantique merveilleux, l'agneau de Dieu sur son trône, resplendissant, voir surtout que toute l'injustice, toute la misère, toute l'angoisse, tout le désespoir va fondre en sa présence. C'est magnifique. Certains disent qu'après l'accouchement, en tenant les bébés dans les bras, la mère oublie toutes les douleurs qui ont précédé. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas jusque-là, mais j'imagine que s'il y a des femmes qui ont un deuxième enfant, c'est parce que d'une certaine façon, oublie les douleurs du premier accouchement, au moins quelques ans après. Parce que d'une certaine façon, le souvenir des souffrances s'estompe face à ce bonheur, face à la joie. Beaucoup de gens veulent savoir ce qui va se passer, mais ils veulent surtout savoir quand est-ce qu'il va se passer. Si je sais que la fin des temps arrive dans quelques années, je profite pour mener à bout les projets, nettoyer ma cave, je ne sais pas. Si c'est dans quelques jours, je vais aller embrasser mes proches, leur dire combien je les aime. Mais s'il me reste juste quelques minutes, j'ai juste le temps de, je ne sais pas, ouvrir une bonne bouteille que j'ai dans la cave. Mais si je n'ai pas le temps, en réalité, c'est parce que nous croyons que nous avons le temps, que nous ne prenons pas le temps de nous préparer pour la fin des temps. Dans le texte de Matthieu 24, Jésus dit, un peu plus loin dans le verset 36, « Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, le Père seul le sait. » Personne ne le sait, même Jésus ne le sait pas. Et pourtant, ça n'a pas empêché des gens à donner des dates précises sur la fin du monde. Il y a quelques années, on parlait d'une soi-disant prophétie maya qui n'en était pas une en plus. Il avait été confirmé par les astrologues et par les scientifiques. Je trouve toujours très marrant quand on met les astrologues et les scientifiques sur le même pied d'égalité. On a même réalisé un film. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du film. Non ? Vous ne l'avez pas vu ? Je ne mets pas les films catastrophes. Il s'appelait 2012. Pourtant, on est en 2022. Depuis 10 ans, on n'a pas vu la fin du monde. Les chrétiens s'y sont mis aussi en 1888. Certains chrétiens affirmaient que la fin du monde serait en 1988. Il y avait des livres très bien vendus qui disaient ça. Ensuite, on a parlé de l'an 2000 et la fin n'est jamais arrivée. La question que l'on peut se poser, c'est si même Jésus, si même le Fils de Dieu ne sait pas, pourquoi nous, qu'est-ce qui nous amène à penser que nous, on pourrait savoir? Si on avait des signes en plus, si on connaissait la date exacte, est-ce que cela changerait quelque chose? Il y a quelques mois, il y a eu un autre film qui a fait le buzz sur une plateforme de streaming que je ne veux pas. C'était sur des scientifiques qui découvraient une météorite qui allait s'écraser sur la Terre. Donc c'était la fin de la Terre. C'est une fiction, une parodie même, une manière de se moquer de ceux qui ne croient pas aux scientifiques lorsqu'ils annoncent le changement climatique, toutes les catastrophes qui vont venir. C'est une forme de se moquer aussi des scientifiques, un peu dans le film. Et vers la fin du film, on voit la météorite qui entre dans l'atmosphère. Donc n'importe qui, sur n'importe quel endroit de la planète, pouvait lever les yeux et voir la météorite. Donc c'était le signe ultime, c'était la preuve évidente, nul doute, Et donc, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à écrire, mais regardez le ciel, regardez vers le haut, il est là, la preuve. Et la réponse des gens sceptiques, il y avait toujours des politiques sceptiques, c'était « ne regardez pas », c'est le titre du film d'ailleurs, « ne regardez pas vers le haut ». Donc, est-ce que vous croyez vraiment que connaître la date exacte de la fin des temps, est-ce que cela changerait quelque chose ? Moi, j'ai l'habitude de faire tout à la dernière minute, comme cette prédication d'ailleurs. Je ne pense pas être le seul à faire ça non plus. Moi, je me dirais, bon, à quoi bon, si je sais que c'est dans quelques mois, à quoi bon acheter un cadeau à ma mère ? Je vais attendre un peu pour réfléchir à la couleur des fleurs que je vais lui offrir, je ne sais pas. C.S. Lewis disait que c'est précisément parce que nous ne pouvons pas savoir le moment, que nous devons être prêts. Nous ne connaissons pas la date, mais en tout cas, la parole de Dieu nous apprend que la fin est proche. En 1 Pierre 4, versets 7 à 10, il est écrit « La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable. » Et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Vivez de manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé. Dans d'autres versions, je suis allé quand même faire les devoirs, dans d'autres versions disent « montrez de la sagesse et soyez sobre ». J'ai trouvé que c'est assez différent. Donc je suis allé voir dans le grec ancien et il s'agit d'un seul mot en fait. C'est le verbe sophronesat qui vient du verbe sophroneo. Et j'ai trouvé ça curieux parce que quelqu'un a repris ce mot grec pour inventer la sophrologie. Et c'est exactement c'est la même racine, sophro. Alors je ne sais pas si vous avez fait de la sophrologie. Non. Si. Je l'ai fait justement avant la naissance de ma première fille avec ma femme, cours de préparation à la naissance. Il y avait un cours de sophrologie, c'était les lundis soirs, donc je la rejoignais après une journée de travail, c'était dans le Vieux-Nice. Et j'arrivais toujours à la bourre, comme d'habitude, en courant. Et vers la fin de la séance, on nous disait, bon, on ferme les yeux. On contrôle sa respiration, on réfléchit à sa respiration. Et donc, chaque bouffée d'air était parfaitement raisonnée. Donc, c'était chaque molécule d'oxygène servait à ce qu'elle doit servir. Et au bout de quelques secondes, je m'endormais. Et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. C'était un peu rigolo, moi, imaginez toutes les femmes avec le gros ventre là dans la salle et moi je dormais par terre au milieu. Mais ce n'était pas le but, justement ce n'était pas le but. Le mot sophro vient de sos, que l'on peut traduire par en harmonie, quelque chose qui est bien en place, et phren qui veut dire conscience. C'est-à-dire que c'est peut-être difficile à traduire, c'est pour ça que les traducteurs, je salue les traducteurs, sont très forts. Ils ont mis deux mots pour essayer de traduire ça. Le but est de rester sobre, mais éveillé. Il faut que ce soit une conscience qui soit en harmonie. Et c'est très difficile. Comment faire ça? Le verset suivant le dit clairement dans le cas du texte biblique. Aimez-vous ardemment, soyez hospitaliers. L'hospitalité était une vertu très importante à l'époque où le texte est écrit. Le don que vous avez reçu de Dieu, mettez-le au service des autres. Soyez administrateurs de la grâce. Cette grâce qui n'a pas une seule facette, elle est infiniment variée. Et de la même façon dont nos dons sont infiniment variés, nous devons les mettre, ces dons infiniment variés, au service des autres. Je vous partage un autre texte, Marc 13, c'est le même passage biblique, mais c'est peut-être dit d'une autre façon. Plus loin, Jésus dit « Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage, elle quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et leur donne au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir ou à minuit, ou au chant de coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. La seule crainte que nous devrions avoir par rapport à la fin du temps est que lorsqu'elle arrive, nous soyons endormis. Est-ce que nous sommes en train de veiller? Est-ce que nous veillons pour notre santé spirituelle? Est-ce que nous veillons pour la santé spirituelle de nos enfants? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ce monde? Le piège est d'être happé par l'actualité, par l'inquiétude. Elle est naturelle, l'inquiétude. Mais notre responsabilité est de ne pas nous laisser bercer par cette inquiétude, ne pas nous laisser endormir par cette inquiétude, mais de rester éveillé. En guise de conclusion, je vous laisserai un verset dans Romains 13. Vous connaissez le fameux chapitre de Romains 12 dans lequel on nous exhorte à nous offrir en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, à vivre dans l'amour, parce que c'est ça, obéir Dieu, aimer son prochain. En Romains 13, Paul nous rappelle que toute la loi se résume en une seule phrase, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ensuite, il dit au verset 11, « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. Oui, nous vivons des moments d'incertitude, d'angoisse, de panique, mais nous devons éviter de céder à la panique. Nous devons aussi éviter de céder au découragement, à l'apathie. Nous ne devons pas baisser les bras. Au contraire, le moment est venu de nous réveiller de notre sommeil parce que nous ne connaissons pas le moment de la fin. Mais ce que nous savons, c'est que la fin est plus proche qu'avant. Viens, Seigneur Jésus. Amen.